podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée technologique afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Jonathan Tifo, président de RubberDuck, une très belle entreprise québécoise qui a eu le courage de transitionner d'un modèle de service à un modèle de produit. Jonathan a eu l'ouverture de nous parler des enjeux derrière les portes closes de ce genre de transition-là, comme rarement il nous est possible d'avoir accès. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Jonathan Tifo de RubberDuck.io, merci beaucoup d'être des nôtres cette semaine. Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça fait plaisir. Ça va super bien, merci toi.
Ça va super bien. Bien content de te parler aujourd'hui. RubberDuck
est une... Merci de me recevoir.
C'est très apprécié. Je pense qu'on va avoir beaucoup de bon contenu pour nos auditeurs aujourd'hui. On va avoir la chance de parler un petit peu comment que ça se passe là, en arrière, behind the scene, une entreprise qui a eu un beau succès en service, qui transige vers une entreprise de produits. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin là, comment tu as réussi à faire cette transition-là, juste pour bien positionner notre auditoire, qu'est-ce que RubberDuck?
Ce que RubberDuck est aujourd'hui, évidemment, c'est pas ce que RubberDuck était il y a un an, puis il y a deux ans, puis il y a trois ans quand on a commencé, mais essentiellement, RubberDuck maintenant, c'est un outil de création de site web qui permet à monsieur, madame, tout le monde, là, des entrepreneurs ou des équipes marketing ou des freelance, des agences et tout ça, de bâtir des sites web pour des entreprises, principalement des entreprises de services. Et plus largement, là, n'importe quoi qui est pas transactionnel, donc les OBNL, manufacturiers, tout ça. Mais tu sais, largement, là, c'est vraiment tout ce qui est pas transactionnel pour bâtir des sites web.
Et je suis curieux, Jonathan, vous étiez une entreprise de services initialement. Ce produit-là s'est développé à travers le temps. Qu'est-ce qui t'a amené là à cette idée-là, puis dire on fait la transition, puis on y va là?
C'est vraiment une réalisation par rapport au marché dans la direction dans laquelle il s'en allait, puis les besoins de plus en plus des clients qui veulent aller vers du no-code. Tu sais, en partant, là, pas avoir besoin de passer par un programmeur à chaque fois qu'on veut faire une modification sur son site web et tout ça. Les gens sont rendus quand même assez familiers avec cette portion-là. Sauf que, malgré qu'il y avait quand même beaucoup de solutions qui existent et disponibles pour bâtir des sites web, on n'en a pas trouvé qui était assez intéressante, assez récente, assez bien bâtie pour rendre la création de site web vraiment facile, vraiment simple pour quelqu'un qui a jamais touché à ça de sa vie et qui est pas programmeur et qui est pas designer non plus. Parce qu'il y a plein de belles plateformes qui existent en ce moment. Mais si on n'est pas designer, si on n'a pas de talent graphique, ça va être une catastrophe de toute façon. Donc nous, on a vraiment pris ce côté-là puis on l'a amené de l'avant. C'est-à-dire, même si on est poche en design, c'est pas grave. Le résultat va être beau pareil. On va dire, comme si on comparait la construction d'une tour avec des briques Lego, puis la construction de la même tour, mais avec un kit Lego, parce que tu as chaque pièce qui va à chaque bon endroit et que tu sais qu'au final, le résultat va être parfait, comme si tu avais fait ça toute ta vie.
Et là, dans le fond, vous faisiez du développement de site web dans la compagnie de services. J'imagine qu'il y a eu des besoins de commerce électronique. Il n'y a pas de commerce électronique, mais de l'application que vous avez développée aujourd'hui, RubberDuck. Vous avez développé un peu votre propre CMS, puis de là est né, je pense, RubberDuck à travers le temps? Ou?
Non, on avait déjà un CMS avant qui datait de il y a beaucoup, beaucoup d'années. Puis lui commençait à être un petit peu plus vieux. Non, RubberDuck, c'est quand que on s'est fait expliquer par nos partenaires, nos agences, nos clients que notre technologie était un petit peu passée date, qu'on a décidé de faire le saut. Puis de originalement, l'idée, c'était pas en inventer une nouvelle, mais ça a quand même été ça le résultat. Là.
OK. Et là, on se situe à peu près en 2018, je pense, qu'il y a eu ce focus-là peut-être de développer le produit. On se ramasse à ce moment-là dans la version aujourd'hui bêta en 2020. Et là, il y a eu un bon scale depuis entre-temps. nous, on voit le côté, le beau côté de la médaille. On voit de l'extérieur la croissance, l'avancement de l'entreprise. Mais on était curieux aujourd'hui de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Puis comment ça s'est passé, cet élément-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des entreprises de services, qui veulent développer un produit, qui veulent transitionner leur modèle vers une entreprise de produits numériques, technologiques. Et ça a l'air toujours facile, ça a l'air toujours tout beau, ça a l'air jamais sans accrochage. Mais la vraie réalité en arrière, pour parler avec tout le monde qui en fait, faut faire des décisions difficiles en cours de route. Il y a des petites choses qui viennent toucher nos valeurs en tant qu'entrepreneur. Puis il y a des moments difficiles à travers tout ça, puis il y a des risques à prendre. Et c'est un petit peu ces éléments-là qu'on, je pense qu'on veut discuter aujourd'hui, de comment ça se passe en arrière dans une transition d'une compagnie de services à produits. Je pense que le premier élément, Jonathan, qu'on pourrait discuter, c'est l'équipe en tant que telle. Je pense que vous aviez une équipe d'un certain nombre de joueurs. Quand on transige en produit, comment ça se passe, cet élément-là? Puis comment que ça crée peut-être des embûches ou des choses qui sont moins plaisantes du côté entrepreneur puis du côté interne?
Originalement, quand on a commencé le projet, en fait, en 2019-2020, on était 30 chez Caméléon. Puis c'est à partir de Caméléon qu'on a fait la transition pour s'en aller vers Rubber Duck. Puis ce qu'il faut comprendre rapidement quand on fait ce genre de transition-là, puis là je parle 100% par expérience, là, on s'entend, là, de notre expérience à nous, c'est que les gens qui travaillent dans cette agence-là, dans cette boîte de services-là, eux autres, le modèle startup Silicon Valley, on s'en va à guerre puis on sait pas si on va survivre. Ils ont pas signé pour ça. C'est pas dans ça qu'ils se sont embarqués au départ, OK? Fait qu'en partant, tu perds des joueurs très rapidement dans les premières semaines, dans les premiers mois. Puis ben tu peux un peu compenser ça par le fait que tu fais pas une transition d'un coup, tu sais, c'est pas on arrête complètement le service puis on commence produit puis that's it, c'est tout simple que ça. Maudit que ce serait simple si c'était comme ça, mais il y a un élément super important qu'il faut garder tout le temps en tête, c'est l'argent. Ça, on n'en a pas à l'infini. Et ça, ben la portion service, c'est veut pas à payer pour ça. Fait que cette transition-là va se faire graduellement. Donc, ça l'est fait dans notre cas. Ça dépend évidemment des moyens que vous avez pour pouvoir passer à travers ça. Mais comme j'ai dit, on était à 30 employés, puis on est rendu aujourd'hui à 8. On a vraiment fait cette transition-là sur de 2020 à 2023. Donc, un petit peu plus que 2 ans et demi. Puis, le côté humain est de loin le plus difficile dans cette portion-là. Sauf qu'honnêtement, on a eu la chance quand même de pouvoir faire la plus grosse portion de ce travail-là, de cette transition-là, par attrition, je pense que c'est le terme. C'est-à-dire que des gens quittaient, on a tout le temps une philosophie de les aider à quitter. Pas dans le sens qu'on n'avait plus besoin d'eux, mais dans le sens que on essaie tout le temps d'élever les gens pour qu'ils puissent aller à un autre niveau dans leur carrière. Puis il y a personne qui rentre dans une entreprise de conception de site web, un programmeur pour la plupart, puis qui se dit que c'est ça qu'il va faire dans la vie, là. C'est jamais leur but dans la vie, là. C'est une porte d'entrée en programmation, mais le projet de quelqu'un qui s'en va en conception de site web, c'est peut-être d'aller faire de l'intelligence artificielle, d'aller faire des jeux vidéo ou d'aller faire n'importe quoi qui sonne vraiment plus cool dans leur vie. Donc, c'est de comprendre aussi qu'on est un tremplin pour ça, puis de les mener vers ça, tu sais, de leur donner des projets qui les mènent à obtenir des compétences puis l'expérience qui va les pousser dans la bonne direction, et que justement quand c'est le temps pour eux de faire le move, ben de les aider puis la lettre de recommandation. Puis tu sais, je vous assure que les gens qui ont quitté Caméléon dans les dernières années sont passés avec des lettres de recommandation que vous seriez un peu idiot de pas les embaucher.
Mais c'est tellement intéressant. Ça va, ouais. C'est vraiment intéressant ce que t'apportes là, d'aider les gens à faire une continuité qui est pas juste honorable, mais de les amener à un autre niveau, parce que je pense qu'on a tous le rôle en tant qu'entrepreneur d'utiliser nos entreprises comme plateforme pour élever les gens. Puis sur le côté professionnel, c'est une chose. C'est pas vrai que les gens, en tout cas, en majorité, les gens resteront pas une vie complète, bien qu'on aimerait garder notre bon monde toute une vie au complet. Mais comment qu'on peut, en tout cas, se poser la question dans nos entreprises, élever les gens même quand ils quittent. Je pense que j'adore ton mindset, Jonathan. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on devrait être plus d'entrepreneurs d'avoir cette philosophie-là. Puis ça ferait du bien, je pense, à la société en général. Je te laisse continuer.
Ben écoute, à travailler les dernières années, comme je t'ai dit, on est allé par attrition. C'est-à-dire qu'on les a laissés partir. On les a encouragés à aller next level, ceux qu'ils pouvaient, ceux qu'ils demandaient, ceux pour qui c'était rendu le bon moment. Il y en a qui se sont juste rendus compte qu'ils préféraient rester dans une agence de service, se sont trouvés une autre agence de service. Donc, tranquillement, mais sûrement, à travers les années, on est passé de 30 à 25, de 25 à 20, puis ben là on est rendu 8 assez dernièrement là, on a laissé partir encore une bonne portion de l'équipe qu'on aurait évidemment voulu garder, mais ça on en reparlera un petit peu dans la conversation pour la suite des choses, mais c'est vraiment en effet le côté humain qui est difficile à ce moment-là de voir laisser partir des personnes, oui, qui s'en vont vers mieux en termes de tu sais des projets plus intéressants, peut-être des salaires plus intéressants, peut-être des défis plus intéressants, mais de l'autre côté, quand ça fait 5-10 ans que tu travailles avec ces personnes-là, ça arrache le cœur bien.
Puis le bout, je pense qu'il est difficile, puis on peut, je pense, se comprendre là-dessus, parce que tu sais, chez Open Mind, présentement, on a un incubateur, l'Open Lab, on a des produits, dont Berrycast, donc on fait des produits aussi. C'est pas évident de transitionner d'un mode service à un mode produit, parce que service rapporte du profit, du cash flow au jour le jour. Produit coûte extrêmement cher en cash flow pour arriver à une étape qu'on appelle le product market fit, qui on dit bon, on a une belle traction puis on est capable d'aller chercher de la croissance. Ensuite, faut se rendre à être cash flow positif et profitable et tout le reste. C'est différentes marches qui coûtent extrêmement cher en argent. Puis il y a des gens qui vont faire cette transition-là en levant un financement, mais notre oxygène qui est l'argent est limité pour réussir à ces différentes étapes-là. Puis comme tu dis, ben faut pas garder des gens qu'on pense qu'on a peut-être juste besoin dans 6 mois, parce que on enlève l'oxygène pour l'organisation pour être capable d'atteindre chacune de ces étapes-là qui est extrêmement cruciale. Pour...
Ça, j'ai pas dit encore. On s'en était parlé avant.
Je te laisse peut-être bonifier ce que je disais là.
Ben, tu sais, en fait, c'est ça, c'est qu'une des erreurs qu'on a fait, mais c'était pas tant une erreur, mais tu sais, c'était, disons, un bump on the road qui est à prendre en considération, c'est de sortir de cet intense besoin de rationaliser le fait de garder les employés le plus longtemps possible. Pas parce qu'ils sont pas utiles, pas parce qu'ils sont pas fins, mais plus parce que tu dis, OK, ouais, on veut les garder le plus longtemps possible, on veut les garder parce que, tu sais, le produit, il va aller bien, puis dans 6 mois, on va en avoir besoin, tu sais, ça serait niaiseux d'avoir réengagé d'autres gens qui connaissent pas le produit, qui ont pas d'expérience, faut tout se retaper la formation et tout ça, tu sais, donc ça, c'est vraiment un des embûches ou un des obstacles qui est difficile, puis que tu trouves tout le temps des façons dans ta tête d'entrepreneur de rationaliser ça pour, on va dire, repousser le moment où ce que tu as besoin de les laisser partir puis de t'arracher le cœur à faire ça.
Et c'est là que nos petits cœurs d'entrepreneurs, des fois, notre cœur nous dit une chose, la tête dit autre chose, surtout dans un contexte où il y a une inflation salariale qui est hallucinante. On le vit tous dans nos entreprises, particulièrement en technologie. Ça va vite, là. T'sais, peu importe le nombre de joueurs que tu es, peu importe l'argent qu'il y a dans le compte peut descendre rapidement. Puis là, c'est une course contre la montre d'aller chercher cash flow positif. Puis après ça, de réussir à aller aux prochaines étapes. Puis un jour, c'est parce qu'on est cash flow positif, mais on est maître de sa destinée, on est moins dépendant d'un paquet de variables autour. Puis là, c'est des belles levées de financement après ça à faire. Mais juste avant ce point-là, chaque dollar est tellement important. Puis là, on vient en conflit interne souvent entre qu'est-ce qu'on devrait faire si on y va juste avec notre tête, puis qu'est-ce qu'on fait si on y va juste avec notre cœur, parce que c'est deux réponses différentes, là.
Tout à fait. Puis c'est tout le temps deux réponses différentes. Puis apprendre à dealer avec ça, c'est... n'importe qui se lance en affaires doit être prêt à prendre ces décisions-là pour être en mesure de bien gérer son entreprise. Je veux pas, là, tu sais. Puis ça va avoir l'air aussi barbare et capitaliste que Elon Musk ou que Jeff Bezos qui renvoie du monde à coût de 5-10 000. C'est les cycles économiques, c'est la réalité dans laquelle on vit. Tout simplement, de vouloir refuser cette réalité-là, vous allez être perdant, tout simplement. Fait qu'il faut juste l'accepter puis être prêt à jouer malheureusement cette game-là, parce que c'est une espèce de game, je veux pas, dans laquelle le capitalisme et tout le concept d'emploi, d'embauche et tout ça, ça fait partie de ça.
Et j'ai toujours deux phrases qui me reviennent, une phrase puis un concept qui me revient en tête dans ce genre de défi-là pour les entrepreneurs. La première, c'est, je pense que c'est Tim Ferriss qui disait, les gens qui ont le plus de succès, c'est ceux qui sont capables d'aborder des conversations difficiles puis prendre des décisions difficiles. Donc, ton succès est corrélé à la quantité de décisions difficiles que tu étais capable de prendre à travers le temps dans ton contexte d'entrepreneur. Ça, c'est la phrase qui me revient tout le temps. Puis le concept qui me revient tout le temps, c'est qu'on est un petit peu un capitaine d'un bateau, le bateau étant l'organisation. Et notre but premier, c'est de s'assurer que le bateau, il se rende au port au bout de la ligne. Parce que si le bateau manque de carburant pour se rendre, parce qu'on est trop lourd, ben personne va se rendre au port au bout de la ligne. Puis c'est un peu ça dans un contexte, entre autres, de transiger de service à produit ou de lever une entreprise de produit tout court. Ben il y a un premier, faut se rendre au moins au premier port qui est le product market fit, puis le deuxième port qui est cash flow positif. Si on a amené trop de gens dans le bateau au départ ou on a toléré trop de gens, ben il y a des chances que malheureusement on se rende pas compte, on se rende pas à destination, puis tout le monde perd au change au bout de la ligne.
Tout à fait.
On a un autre aspect. Là, on parlait du côté humain, employé, équipe. Il y a comme une transition à faire là-dedans, mais il y a également une portion qui est légale à travers tout ça, là, qui est en arrière, là, à rideau fermé. Il y a des choses qui se passent qu'il faut, je pense, prendre en compte pour ceux qui ont cette idée-là de transiger, de service à produit. Là.
Ouais, mais j'en entends souvent parler de mes amis, de d'autres entrepreneurs principalement qui ont généralement des agences dans divers domaines de la programmation, là, que ce soit de l'applicatif ou du web ou tu sais. Puis pas mal tout le monde a envie d'aller dans la direction du produit. C'est un peu qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous autres faites avec Barry Cass, qu'est-ce que François ont pu faire avec Snipcart et tout ça. Tout le monde veut avoir son produit puis avoir pouvoir bénéficier de ce beau modèle d'affaires là qu'on va dire qui est de bâtir une chose une fois et de le vendre à vraiment plein de gens. Puis que ce soit du software qui se réplique par lui-même, tu sais, c'est comme de la magie. Tu sais. Évidemment, ça n'a rien de magique. C'est vraiment pas si simple, mais ça, c'est pour une autre chose. Ceci dit, quand tu es dans une entreprise de service et qui vend du service, surtout dans l'applicatif, tu vends des plateformes, tu vends des gros mandats, c'est que tu as des contrats à honorer. Tu sais. C'est que tu as bien beau avoir la meilleure idée du monde, tu as beau avoir exactement la bonne équipe pour pouvoir la livrer, puis OK, on sait quoi faire, on sait comment le faire, on peut se rendre au product market fit vraiment vite, vraiment bien. Sauf qu'à la fin, tu as des contrats à livrer que si tu livres pas, ben tu vas avoir tu vas avoir des poursuites sur les épaules, puis ce sera pas rigolo. Fait qu'il y a ça à prendre en compte aussi qui est un aspect qu'on oublie dans cette conversation-là souvent. C'est comme OK, oui, la transition, mais dans la transition, il y a ça. Il y a de pas se faire poursuivre pour des mandats que t'as pas livrés. Puis après ça, ces mandats-là, ça se peut que les clients, il y ait d'autres demandes là, qui veulent continuer à faire d'autres éléments, qui veulent rajouter d'autres modules dans leur application, dans leur projet et tout ça. Puis tu peux pas juste les laisser tomber. Tu peux pas juste arriver. Puis nous autres, on ferme la shop, on s'en va côté produit, puis arrangez-vous avec vos troubles. T'es responsable du code, t'es responsable de tout ce qu'il y a en arrière. Fait que légalement, cette portion-là est moins pire, mais aux yeux de, on va dire, éthiquement, c'est assez ordinaire de laisser ces clients-là avec leurs problèmes, puis arrangez-vous, puis trouvez-vous une autre équipe de devs qui vont s'occuper de ça pour vous. Donc, il y a ça qui est à prendre en considération, qui a besoin d'être géré comme qui va day to day, puis que aussi qui va, je vais te laisser parler là-dessus, mais aussi qui va toucher l'équipe, tu sais, ton équipe, puis ce que ton équipe a envie de faire rendu là.
Et le dilemme là-dedans, c'est encore la tête et le cœur. Tu sais, le cœur, on veut pas laisser les gens tomber, on veut pas laisser tomber les gens qui travaillent sur ces projets-là, on veut pas laisser tomber les clients qui nous ont fait confiance. Et là, la tête nous dit, si on met du focus et de l'énergie là, on s'enlève de l'oxygène, de la capacité à se rendre à destination pour le produit. Fait qu'encore là, il y a toujours le combat de la tête et le cœur à travers tout ça. Où est la mince ligne qui est parfaite? Ben, c'est dans la tête de chacune des personnes qui regardent. Le client, il se dit, tu peux pas me laisser tomber. Le financier externe qui développe, qui donne l'argent pour le produit, il dit, là, t'arrêtes ça tout de suite.
Ouais, puis CEO qui court après l'argent à tous les mois, lui, il fait comme, ben là, le client, il veut ça de plus, puis il est prêt à payer pour. Puis nous autres, on a justement besoin d'argent. C'est comme, tu sais, il y a tout le temps ça, là. C'est tout le temps de peser le pour et le contre d'aller chercher le cash ou pas. T'sais.
Puis c'est tellement un dilemme parce que souvent, les gens qui finissent par être à succès avec le produit disent tous, j'aurais donc dû arrêter avant le service. Mais des entreprises qui manquent d'argent avant de se rendre au product market fit pour cash flow se disent, eh là là, j'aurais dû trouver le moyen de me financer pour réussir à me rendre plus loin. Donc, peut-être de continuer le service.
Ouais, donc, c'est le souhait qu'on a d'arrêter le plus vite possible de faire du service puis de se concentrer tout de suite. C'est le souhait qu'on a. Mais dans la vraie vie, c'est pas le même, ça se passe pas en tout. Faut que t'aies une transition, faut que tu... après ça, ça devient une opinion, puis ça devient à quel point ton idée est bonne, puis à quel point tu connais du monde riche qui peuvent devenir tes investisseurs, ou tu sais, à quel point t'es talentueux pour bullshitter le monde pour aller chercher des VC, je ne sais pas. Mais tu sais, à quelque part, faut que tu trouves à quel moment pour toi c'est le bon moment de tirer la plug sur la portion service, ou on va dire, pour rester pour rester avec la portion légale, sur la très grosse majorité de la portion service, de tirer la plug là-dessus, puis vraiment te mettre où ce que tu focuses sur ton produit, au point où ce que, tu sais, même dans notre cas, où ce que tu changes le nom de l'entreprise, tu sais, rendu à ce point-là, ça en vient pas mal plus côté produit que côté service quand tu as changé le nom d'entreprise pour le nom du produit.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation. DEV, le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Puis, il y a quand même aussi une question de tolérance au risque aussi. Puis, je te lève mon chapeau de faire cette transition-là parce que c'est toute une prise de risque. Puis, malgré que je suis convaincu que vous le contrôlez bien à travers tout ça, mais tu sais, tout entrepreneur, c'est quand même très confortable d'être dans le mode service parce qu'il y a des revenus qui sont... Je dirais pas facile à générer, mais il y a une certaine facilité à amener un cash flow et une profitabilité à l'entreprise.
Il y a un historique, tu sais, on sait comment, là, tu sais.
Ben oui, exactement.
Vendre des sites web, vendre des applications web, on sait comment, on est capable de repeat autant qu'on a envie de le faire, là, tu sais.
Exactement. Mais le produit, ben, c'est risqué, mais le rendement est potentiellement plus grand là et le modèle d'affaires, un coût à succès, est des fois plus agréable à rouler au final dans le day-to-day. Fait que je lève mon chapeau à toi et des entrepreneurs qui font ce mouvement-là. Parce qu'effectivement, il y a un côté prise de risque. Il faut être prêt à prendre puis à dire « go, on se lance parfois dans le vide » parce qu'il reste encore des fois des hypothèses sur la table qui n'ont pas été complètement validées. Là.
Tout à fait.
Troisième volet, on a parlé un petit peu, mais le volet cash flow. Ouais. Je pense qu'on a des petits morceaux qu'on pourrait jaser de ça. Là.
Ben, l'idée, tu sais, quand tu es une entreprise de service, si c'est moindrement bien géré, tu génères un petit peu de profit à tous les mois. Tu as ton cash flow, tu payes ton staff et tout ça, tu génères un petit peu de profit à tous les mois. Du côté produit, c'est de voir à quel moment qu'on fait cette transition-là qu'on parlait. Est-ce que tu fais cette transition-là après que l'équipe qui est nécessaire à gérer la croissance de ton produit, est-ce que tu es profitable? Est-ce que tu es capable d'être cash flow positif comme tu parlais tantôt? À moins d'avoir un produit vraiment incroyable ou exceptionnel, ça va rarement arriver que tu vas être capable de te rendre à la profitabilité avec ton produit tant et aussi longtemps que t'as pas mis vraiment un maximum d'énergie dedans, puis que t'as pas mis la majorité des ressources de ton entreprise sur ce projet-là. Après ça, ben oui, c'est sûr qu'il y a des projets qui sont plus petits, des applications plus petites et tout ça. Tu sais, il y a certaines exceptions, puis il y a d'autres idées que c'est des idées géniales que ça se subventionne et ça se règle au crédit d'impôt. Toutes ces choses-là. D'après moi, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là pour certaines idées. Tu sais, peut-être dans l'environnement, en intelligence artificielle, dans certains trucs en ce moment. Mais sinon, pour un simple produit de SaaS de software, t'as une grosse gestion de cash flow qui baisse, veux pas. Moins plus tu transfères des ressources de ton service à ton produit, plus ton cash flow qui rentre de ton côté service va réduire. Puis à un certain moment, ben c'est la journée où ce que tu décides de faire la transition. Pour dans notre cas, à nous, on a décidé de faire la transition quand on a atteint le product market fit. Donc on a étiré l'élastique. Là, c'est pour ça que ça a pris de 2018 à 2020 là, pour créer le produit, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en moins d'un an si on avait mis toutes nos ressources là-dessus, ce qu'on n'a pas fait. Donc ça a pris plus proche de deux ans et demi à faire un produit qu'on était capable d'avoir une version qu'on pouvait amener au marché assez petit au niveau du marché, tu sais, pas commencer à exploser, mais au moins capable d'aller chercher du feedback de clients puis te rendre compte que finalement ben t'as besoin d'une phase 2 puis d'une phase 3 avant même de pouvoir penser à avoir un product market fit puis à pouvoir peser sur le bouton OK, on fait de la pub puis on a la clientèle qui rentre assez naturellement de cette façon-là ou du moins assez prévisible. Tu sais, c'est vraiment ça l'idée, c'est je mets tant de pub et je sais que si je mets tant de pub, j'ai grosso modo tant de leads qui vont rentrer, tant de leads qui vont se transférer en temps de vente, etc. Être capable de faire ce canal, ce funnel-là au complet, de le rendre prévisible, ben c'est à ce moment-là que nous, quand on a eu ça, qu'on a déterminé, OK, là, on peut vraiment se concentrer presque exclusivement sur la portion produit, à quelques exceptions près, comme j'ai mentionné. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, c'est de comprendre que du jour au lendemain, tu as une entreprise qui, on va dire, qui est rentable, qui survit avec son cash flow, une entreprise qui bleed du cash tous les mois de façon extrêmement violente et rapide. Et là, ce moment-là, c'est le moment le plus stressant de toute ta vie, parce que là, c'est le moment où tu commences à chercher du cash, chercher des investisseurs et tout ça. T'es dans une bonne position pour chercher du cash, parce que justement, tu vas chercher des investisseurs à un moment où t'as un product market fit, on a déjà des clients, on a déjà des revenus, c'est déjà, tu sais, on a déjà quelque chose de nice, on a un bon brand que les gens aiment, tant mieux, parfait, let's go. Sauf que tous les mois, ton compte de banque descend de, je sais pas, c'est quoi ta situation, 20, 50, nous autres, c'est 100 000 par mois. Fait que 100 000 par mois, ça va vite en s'il vous plaît, là. Tu veux alléger tes coûts fixes le plus rapidement possible. Tu veux aussi t'assurer que tu as vraiment la bonne version de ton produit, que tout est bon. Tu veux t'assurer de pas te faire poursuivre de l'autre côté. Donc, tu es obligé de garder un certain staff pour livrer les projets qui n'ont pas encore été complétés ou livrés. Parce qu'il y a quand même une pandémie qui a retardé toute l'histoire en plus. Donc, ça l'a aidé à certains égards, on va se le dire, là, côté subvention salariale et tout ça. Mais dans l'ensemble, tu sais, ça a quand même retardé des projets que ben, dans certains cas, ça a été positif, mais dans la plupart des cas, ça a quand même été difficile, négatif et financièrement vraiment tough à ce niveau-là. Là, je pars dans plein de directions, je dis plein d'affaires. Ramène-moi à l'ordre, Jonathan.
Absolument, mais l'ordre, elle est la bonne, parce que je voulais revenir sur le point justement de votre côté, vous avez tenté d'aller le plus loin possible pour lever un financement après le Product Market Fit. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu referais cette même logique-là, puis pourquoi?
Je referais exactement la même chose. Je pense pas qu'on a fait d'erreur à ce niveau-là. De durer le plus longtemps possible avec les revenus de l'entreprise de service pour après ça, justement, obtenir un product market fit qu'on a obtenu à l'arraché, je veux dire, parce que c'est des départs qui ont fait qu'on a réalisé un peu qu'est-ce qu'on avait puis où est-ce qu'on était rendu. Tu sais, à un certain moment, j'ai mentionné tantôt que RubberDuck faisait pas dans le transactionnel. Pour le moment, RubberDuck fait pas dans le transactionnel. Avec des intégrations, ça va être possible et tout ça. Tu sais, justement avec Snipcart, avec d'autres intégrations comme Foxy et tout ça. Donc, ça va être possible de devenir transactionnel, mais on le fait pas. Mais on l'a, ce module-là, on l'avait fait au départ. On a déjà bâti tous les systèmes transactionnels, mais on faisait aussi du custom avant. Tu sais, on n'était pas simplement on pouvait prendre des clients puis leur bâtir des thèmes custom pour eux à l'intérieur de RubberDuck et livrer des plateformes, des beaux sites web, des trucs vraiment incroyables. Ça, on n'en fait plus depuis le mois de mars 2022, le moment où ce que il y a deux joueurs clés dans l'équipe qui ont fait, ben là, nous autres, on arrive au bout, on a d'autres offres, on veut aller ailleurs, on veut faire autre chose. Là, tu fais comme, OK, ben, tu sais, c'est comme mon lead front-end qui s'en va, qui me permettait de faire des sites web custom puis des trucs transactionnels et tout ça. Puis j'ai mon lead vendeur qui, lui, les vendait. Là, tu fais comme, OK, j'ai plus personne pour les vendre, j'ai plus personne pour les faire. On va arrêter de faire ça. Là, tu te rends compte que quand tu prends tout ça ensemble, tu fais comme, OK, ben, ça marchait pas tant bien que ça, cette portion-là, de faire du custom. Puis les clients dans le transactionnel, ben, t'en avais comme un sur deux qui était vraiment content de sa plateforme, parce qu'à la fin, les besoins sont tellement différents d'une entreprise qui fait de la vente en ligne à une autre. Il n'y a jamais personne de vraiment content, vraiment, tu sais, super heureux. Puis, quand on allait vers toutes les entreprises de services manufacturiers, OBNL, qui utilisaient RubberDuck, faisaient leur site web avec ça, eux autres, j'avais 12 clients sur 10 de contact, tu sais. C'est comme, puis ils m'en référaient, puis ils m'amenaient leurs amis, puis tout ça. Je suis comme, OK, guys, on sait c'est quoi qu'on a de bon, on va se concentrer là-dessus, on va laisser tomber le transactionnel, on va laisser tomber le custom. Anyway, on n'a plus personne de les faire. Puis, on avait notre product market fit avec ça, puis c'est avec ça qu'on a décidé de partir, on va dire, partir à la guerre, mais partir surtout à recherche d'investisseurs, parce que là, c'était le jour où, OK, ben, on laisse tomber toute cette portion-là, ben, on se concentre sur le produit, puis on cherche l'argent auprès d'investisseurs.
Donc, la vie vous a parlé un petit peu, là, de dire un départ, ah oui, deux départs, on se remet en question, puis on regarde s'il n'y a pas justement une opportunité de focusser, puis d'aller voir vraiment où est-ce que nos clients sont satisfaits, puis de vraiment, de manière stratégique, avoir un plein focus là-dessus, là.
C'est de trouver une niche vraiment dans laquelle ton produit peut rentrer précisément. On se retrouve à avoir une niche qui est immense, qui est 80% des sites web de la planète. Fait que ben capable de dealer là-dedans. Là. C'est comme le 20% de sites transactionnels, je suis capable de pas le prendre puis de le laisser à Shopify puis à WooCommerce et ces choses-là.
Et c'est bon que tu mentionnes ça parce que je pense que le succès pour un product market fit puis deux, arriver au cash flow positif le plus vite, c'est d'avoir une niche qui est bien définie, connaître son client idéal, de faire le marketing en conséquence de ça, les actifs marketing numérique aussi en conséquence de ça. Puis s'il y a beaucoup moins de friction à ce moment-là de convertir, mais surtout de rendre le client heureux au bout de la ligne. Fait que je pense que c'est pas mal ce que vous avez fait qui fait qu'aujourd'hui, là, ça l'avance à pleine vitesse dans la bonne direction. Là.
100%. Oui.
Prochain petit point qu'on aborde très, très rarement dans un transfert là, entre service vers du produit, c'est la structure fiscale. Je serais curieux de savoir, est-ce que on garde ça dans la même entreprise, on crée une autre entité, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est quoi les enjeux, les implications? Je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte, cet élément-là, parce qu'il y a beaucoup de petites virgules qui peuvent impacter beaucoup. Là.
Le nombre de personnes à qui j'ai parlé, j'ai essayé d'obtenir l'information là-dessus avant justement qu'on fasse ce qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est incroyable. Puis t'as beau aller dans tous les incubateurs, les accélérateurs et tout ça... Tous les cas sont uniques, puis tu sais, les personnes pour te conseiller qui ont vraiment passé à travers, puis qui connaissent vraiment la poutine comme il faut, à la fin, ils coûtent cher. On peut se le dire, là, c'est du monde qui coûte vraiment cher.
Ça va vite de l'heure, ça va vite.
Ouais, exactement. Nous, dans notre cas, à nous, tu sais, on avait l'agence qui était Caméléon Média avant, qui existait depuis une vingtaine d'années, qui avait un bon historique en tant qu'entreprise. Nous, on a décidé, en fait, de elle la transformer en Rubber Duck plutôt que de... En fait, originalement, on a incorporé une entreprise qui s'appelait Rubber Duck, qui appartenait 100% à Caméléon. Puis on a ultimement fusionné les deux pour retenir le nom de Rubber Duck. Je dirais, erreur de parcours pour cette portion-là. Je pense qu'on a fait une étape de trop, qu'on n'aurait pas vraiment eu besoin de faire, là, de taper cette fusion-là et tout ça. C'était pas tant nécessaire, mais bon.
Je suis curieux, Jonathan, vous auriez fait quoi? Vous l'auriez fermé puis juste ajouté le nom dans l'entreprise de Caméléon, si c'est à refaire?
Non, on n'aurait pas créé d'incorporation okay. Rubber Duck. T'sais, on l'avait fait à une époque où ce que on voulait protéger nos arrières le plus possible, puis tu sais faire ça clean le plus rapidement possible pour finalement se rendre compte que c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait ne plus juste changer le nom de Caméléon en partant tout simplement. Ça aurait pu être aussi simple que ça pour commencer. C'est enregistrer les propriétés intellectuelles du nom, ces affaires-là. C'est le brand auprès de l'Office de protection du Canada, quelque chose comme ça. Puis, ça avec, c'est tough trouver du monde pour comme juste faire ça comme il faut. Comme, il y en a qui sont des avocats, il y en a qui sont des spécialistes en propriété intellectuelle. Tout le monde dit des affaires différentes. Ça a l'air tellement facile pour eux autres. Là, finalement, tu vas le faire toi-même. T'as l'impression que tu l'as fait. T'as l'impression que t'as reçu le papier, que t'as confirmé que c'est fait. Mais le problème avec ça, c'est que t'es jamais sûr que tu l'as bien fait, tu sais. T'es comme pas bon là-dedans. Fait que t'as le papier qui te dit que tout est beau, tout est correct, mais t'es comme, oh, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais. Fait que t'as aucune idée qu'est-ce que t'as oublié. Là, t'es comme, on va quand même payer quelqu'un pour qu'il me dise si je l'ai fait comme il faut. Finalement, tu payes quelqu'un pis tu l'as fait comme il faut pis t'as payé pour rien. Colin!
C'est tellement un dilemme avec ces genres de dossiers-là qu'on n'a jamais travaillé en tant qu'entrepreneur, puis je comprends tellement ce que tu dis là. C'est tellement des zones grises qu'on n'a pas traversées régulièrement. Fait que je suis tellement d'accord avec toi que souvent on se dit, on l'a-tu bien fait? Puis finalement, tu payes pour te faire confirmer que tu l'as bien fait, mais tu voulais le faire par toi-même pour sauver. Puis finalement, ou il dit que tu l'as pas bien fait, puis là, t'as travaillé pour rien, faut le refaire puis le défaire.
Exactement.
C'est pas évident.
Puis t'as brisé quelque chose, là. T'as essayé de quoi, puis là, t'as brisé quelque chose. Non, c'est pas le même qui allait le faire, puis là, finalement, là, le gouvernement va te pourchasser. C'est comme, là, attends, c'est tout le temps l'enfer. C'est vraiment lourd, ces affaires-là. Hey, je me rappelle même plus de quoi qu'on parlait.
On parlait de structure fiscale, puis il y avait un enjeu peut-être d'historique qui était positif de garder Caméléon et de... Là, vous avez fait une fusion au niveau du nom, mais vous auriez simplement changé de nom dans l'entreprise initiale et non partir une coquille à côté.
Ouais, exactement, parce que ton entreprise de service qui fait facilement au-dessus d'un million de chiffre d'affaires par année, je veux dire entre 1 et 2 millions de chiffre d'affaires par année, là, tu sais, elle a une bonne marge de crédit qui pourrait être bien utile dans ton entreprise de produits qui va être pas rentable pendant un petit bout, puis elle a une capacité d'emprunt, puis elle a un historique et tout ça qui va avec, qui est quand même intéressant, que ça vaut la peine de garder. De l'autre côté, il y a tout le temps la portion légale, où est-ce que, OK, y a-tu des risques de se faire poursuivre, y a-tu des risques de, tu sais, à ce niveau-là, on n'avait pas tant, on était bien assurés, puis on n'avait pas vraiment de tant de risques de ce côté-là. Tu sais pas qu'on a tout le temps été parfait puis que ça peut pas nous arriver, mais on est assuré à un moment donné, faut bien que ça serve à quelque chose. Fait que ouais, il y a ça. Fait qu'on a décidé finalement de fusionner les deux, Rubber Duck et Caméléon. On a gardé le nom de Rubber Duck, on a gardé toute cette entité là. Puis on s'est retrouvé à recréer Caméléon, une nouvelle entité, une nouvelle incorporation, mais appartenant à Rubber Duck pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'on finisse par la revendre.
Et il y a un aspect aussi peut-être caché là-dedans par rapport au crédit d'impôt, qu'il y a des gens qui sont peut-être moins familiers, mais on a la chance d'être accompagné souvent par le gouvernement ici au Québec, autant fédéral que provincial, pour aider à accélérer des fois le développement puis d'amortir le risque technologique. Donc, il y a un enjeu, entre autres, un crédit d'impôt qui est super intéressant. Souvent, le crédit d'impôt pour les affaires électroniques, que certains produits peuvent être admissibles. Même chose au niveau du pari CNRC. Là, il y a un enjeu de dire, il y a des minimums à rencontrer avec la nouvelle entité. Oui. Donc, il y a un enjeu là, de dire, qu'est-ce qu'on fait là?
Mais le pari est un running gag dans les entrepreneurs techno. Hein? T'sais, je veux dire, il existe, mais il est une légende. Là. Ce programme de subvention-là, il n'y a personne qui est capable de l'avoir dans la vraie vie. C'est pas, peut-être que toi, tu l'as eu. Toi, tu as des skills qu'on n'a pas eu.
Mais ça pourrait faire un excellent épisode. On l'a justement dans notre carnet d'épisodes futurs. On a eu la chance d'être accompagné effectivement par le pari CNRC. Ça a été d'une grande aide pour se rendre jusque-là. Mais effectivement, il y a des critères qui sont assez strict à suivre pour y arriver.
Ouais, la charge de travail, la paperasse qui est nécessaire pour aller chercher ça est quand même phénoménale.
Et surtout, il faut qu'il y ait vraiment un risque technologique approuvé à travers tout ça, là, parce que c'est vraiment de découvrir ce risque-là en cours de route. Mais ça pourra faire un excellent épisode de ce sujet-là, précisément.
Mais oui, crédit d'impôt pour affaires électroniques, c'est sûr que ben dans une entreprise de services en techno, une agence et tout ça, c'est sûr que c'est obligatoire. Je veux dire, c'est ça ou je sais pas c'est où tu prends ton profit à fin d'année. Oui, en effet, dans le cas d'un produit, c'est un petit peu plus touché. Puis moi, ce que je me suis rendu compte rapidement, c'est que si tu viens pour pitcher à des investisseurs ton projet, et qui te pose la question, est-ce que tu as des subventions recherche et développement? Assure-toi que ta réponse, ça va être oui, parce que sinon, t'as l'air pas pire idiot, là. Genre, arrange-toi pour avoir tes subventions, là. T'sais, moi, c'est ça que j'avais en tête, là. J'étais comme, tu sais, c'était même pas le montant d'argent des subventions qui est important. C'est juste de pouvoir répondre oui à cette question-là.
Mais ça prouve un peu aussi en même temps qu'on a fait le travail qu'on avait à faire pour aller chercher un maximum d'oxygène pour se rendre à destination. Fait qu'effectivement, c'est un réflexe souvent que les investisseurs vont poser quand ils s'y connaissent, là. Et ça vient tester un peu le réflexe de l'entrepreneur d'avoir bien fait son travail et de connaître l'industrie puis ce qui est disponible. Mais on va faire un excellent épisode là-dessus pour vous aiguiller, ceux qui nous écoutent, là, pour voir les différents crédits d'impôt qui existent et subventions. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle peut-être précisément des mauvais mouvements qui ont été faits, les fameux bad moves en cours de route. Est-ce que tu as eu des bad moves qui ont été au niveau des campagnes de publicité, d'avoir vendu pas la bonne chose en cours de route, des enjeux techniques? Je serais curieux là, si tu aurais des choses que tu pourrais partager pour peut-être éviter ces problématiques-là avec les gens qui nous écoutent. Là.
Les bad moves sont tout le temps liés, en tout cas dans notre cas, c'est tout le temps lié au timing. C'est pas tant des mauvaises idées que du mauvais timing tout le temps, de faire des affaires trop vite, de faire des affaires pas assez vite. C'est vraiment ça. T'sais. On va parler, mettons, campagne de pub. On était principalement, on avait basé tous nos calculs et tous nos chiffres sur les premiers mois qu'on avait eu avec Facebook. Ça avait tout explosé. On était allé chercher 150 agences partenaires au Québec. C'était absolument génial. 6 mois après, Facebook change. C'est Apple qui fait une modification qui fait que le tracking de Facebook devient abominable, tu sais, comme vraiment. Puis on s'en remet jamais. Là. Puis là, le temps qu'on allume sur le fait que c'était ça vraiment le problème, puis que ça fallait qu'on apporte des changements, fait qu'on change complètement notre stratégie par rapport à ça. Ben, tu sais, tout ça, c'est trop de temps. Ça aurait pris 2 semaines, ça aurait été trop de temps. Dans notre cas, ça nous a pris 6 mois, puis comme c'est vraiment beaucoup trop de temps. Tu sais, fait que c'est vraiment de réagir plus rapidement, d'être plus conscient. En tout cas, c'est manque d'information. Hein, tu sais, c'est le fait de pas avoir nécessairement une certaine expertise dans un certain domaine à un certain moment. Mauvais timing qui est ça.
Et c'est surtout une question d'équipe aussi, parce qu'on aimerait savoir tous les meilleurs experts autour de nous pour réussir à se rendre à destination, mais il y a un budget limité. Fait que il y a de ces embûches-là que parfois, il y a des gens qui auraient pu nous aider dans l'équipe à ne pas faire ces erreurs-là, mais il y a un coût de s'entourer de ces experts-là, autant à l'interne qu'à l'externe. Fait que, veux, veux pas, on finit toujours par tomber dans un piège en cours de route qu'on se dit qu'on aurait aimé ça éviter. Là.
Ah, quand tu commences justement une start-up de produits comme ça, parce que même si on était issu, tu sais, on est un spin-off, ça reste une start-up pareil. Avoir des personnes qui ont plein de sortes de skills, même si c'est des 6 puis des 7 sur 10 dans ces skills-là, c'est beaucoup mieux au départ que d'aller chercher un 10 sur 10 ou un 11 sur 10 dans tel truc, mais il est capable de juste faire ça. Fait que c'est un petit peu la chance qu'on a eue, la force qu'on a eue, nous autres, c'est vraiment d'avoir des gens qui, tu sais, on n'avait même pas de DevOps, nous, avant. T'sais, dans Caméléon, on n'a jamais eu besoin, je faisais pas des projets assez gros pour commencer à gérer des problèmes de serveurs et tout ça, mais on a quelqu'un qui s'est élevé puis qui s'est mis à tout apprendre, absolument tout apprendre ce qui était possible pour devenir DevOps. En dedans d'un an, il savait absolument tout, puis il est devenu notre DevOps, mais ça prend des gens avec des skills vraiment particuliers, mais aussi une attitude, une capacité d'apprendre incroyable pour pouvoir justement avancer malgré le fait que t'as pas toutes les skills, t'as pas toutes les compétences dans tout, tu sais. Puis ben malheureusement, il y a des affaires qui sortent complètement du scope de ton entreprise, que ce soit de la fiscalité ou que ce soit du droit, du légal, ou ce que là, t'as pas le choix d'aller ailleurs, puis que c'est une bonne idée d'aller ailleurs, là, de pas essayer d'avoir toutes les réponses à l'interne ou de les trouver sur Google.
Puis je trouve ça intéressant, ce concept-là de généraliste puis d'expert. Il y a quelqu'un qui m'avait donné ce schéma-là mental du commando, l'infanterie,
oui, oui, oui.
Puis la police, que je trouve super intéressant.
C'est sur un de tes podcasts que j'ai entendu ça aussi.
C'est Guillaume Bazinet, si tu nous écoutes, je te salue de FX Innovation à Montréal. Il m'avait sorti cet article-là, puis ça m'avait tellement frappé. Puis je le redis parce que je l'ai mentionné effectivement sur un podcast et il y a tellement de gens qui m'en ont reparlé après et ça a eu un impact incroyable à des endroits que je m'attendais pas, là, que je m'en ai fait parler. Fait que je le mentionne, ça peut vous aider dans vos organisations. Dans le fond, à la guerre, il y a un concept où ce qu'on va envoyer généralement les commandos en premier quand on débarque sur une plage pour attaquer une ville. Donc, c'est des gens qui ont le couteau dans les dents, qui sont prêts à aller au front en avant, puis qui veulent vraiment, là, tu sais, être dans la mêlée, puis peu importe ce qui va arriver, ils vont trouver le moyen d'essayer de se débrouiller.
Ton prêt-à-tout, là.
Exactement. Le prêt-à-tout qui est souvent un généraliste qui dit, moi, j'y vais, puis je me lance, puis je vais trouver le moyen de me rendre à destination. Mais un coup qu'on a sécurisé cet endroit-là, ben, ces commandos-là, ils s'ennuient, là. Tu sais, faut les envoyer dans des nouveaux défis où ce qu'ils vont être un peu les héros. Fait qu'à ce moment-là, l'infanterie arrive pour être capable d'être plus tactique, d'être plus précis. Et à ce moment-là, un coup que l'infanterie a pris, exemple, le contrôle d'une ville au complet, mais la police va arriver pour venir sécuriser cette zone-là. Et là, les commandos et l'infanterie vont continuer à avancer sur la place de guerre. Mais c'est un peu la même chose avec nos entreprises. Au début, on a besoin des commandos qui sont des généralistes, qui sont prêts à tout faire avec le couteau dans les dents. Mais à un moment donné, il faut commencer à mettre un peu plus de spécialité, d'expertise et de technique. Et c'est là que l'infanterie doit venir, ces gens spécialisés-là dans des choses très précises. Et c'est là que parfois les commandos se remettent en question. On dit, ah mon Dieu, c'est plus comme avant. Là, il y a plus de procédures, il y a plus de choses à respecter et de règles. Et là, la police généralement arrive pour venir surveiller qu'on fait nos procédures puis qu'on s'assure que la qualité est là. Et là, souvent, c'est malheureusement, ces gens-là, généralistes, au début, ils se retrouvent plus nécessairement dans l'évolution de l'organisation. Puis là, il faut leur trouver des défis à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'accomplir. Donc, ça se rattache un petit peu à ça, de dire au début, on a besoin de commandos, puis au fur et à mesure qu'on avance, il faut trouver des gens spécialisés, de l'infanterie, puis éventuellement de la police. Et ça, c'est dans un stade où ce qu'on est des centaines ou des milliers dans nos organisations. Là.
Ouais, je confirme qu'on est encore commandos de notre côté.
Mais voilà, mais des fois, il faut aller chercher de l'infanterie de l'externe de temps à autre pour venir s'aider, pour être certain que les fondations sont bonnes. Donc, enjeu, on parlait d'enjeu, puis on s'est écarté, je m'excuse, c'est moi qui ai
dit
là-dessus. Les bad moves, on retourne aux bad moves, Jonathan.
On sous-estime tellement de temps que ça prend pour de programmer quelque chose, tout le temps. L'estimé de temps de programmation de n'importe quel module, n'importe quoi, sous-estimer ça, c'est tout le temps... T'as beau doubler le temps, t'as beau tripler, tu seras jamais capable de bien évaluer le temps de travail qui est nécessaire pour développer un outil, une plateforme, un module ou tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça a tout le temps été un enjeu. C'est encore un enjeu aujourd'hui. Ça l'est probablement chez vous aussi un petit peu. Qu'est-ce que t'as à dire, toi?
Ben, C'est toujours, toujours un défi de bien évaluer. Effectivement, quand, si les requis bougent à travers le temps ou s'il y a des surprises ou des enjeux techniques, ça finit toujours par parfois gonfler. Par contre, à l'heure où cet épisode-là va sortir, il va avoir déjà un épisode qu'on a sorti sur comment élever ses équipes de développeurs ou les rendre plus efficaces par l'intelligence artificielle sur 10 cas réels d'utilisation. Donc, c'est l'épisode numéro 26 qui est sorti le 25 avril. On vous invite à l'écouter là, si vous avez des équipes de développeurs. Nous, de notre côté, c'est hallucinant l'efficacité supplémentaire qu'on est capable d'avoir avec, à l'heure actuelle, là, ChatGPT, entre autres, et Copilot. Et on ose, en tout cas, du moins, on a la prétention que je pense que ça va être de plus en plus facile dans le temps avant nous de diminuer les temps requis pour faire ce qu'on a à faire. Mais sans ces outils-là, ben effectivement, des fois, là, ce qu'on pense qu'il va prendre 1000 unités d'effort, on va en prendre 2000. On espère que peut-être on va être capable de tomber en bas de 1000 en se propulsant avec ces outils-là devant nous.
Oh, je vais regarder ça.
Et on le faisait pour tout le monde, autant pour les équipes comme chez vous. Donc,
c'est un rendez-vous le 25 avril.
Voilà. Exactement. D'autres bad moves, Jonathan, de ton côté?
Un qui est assez récent, ben c'est pas tant un bad move, on va dire une mésaventure ou c'est assez rigolo, mais on a déjà dû demander à un employé de quitter parce qu'il travaillait on the side pour sa propre agence, puis tu sais, il essayait pas de voler des clients, mais mettons presque, tu sais, dans une situation comme ça. Puis tu me croiras pas, mais on s'est rendu compte la semaine passée qu'il avait tenté de copier Rubber Duck. En fait, qu'il avait copié Rubber Duck. Oh. Ah ouais, carrément là, une vieille version vraiment vraiment très moyenne, très très mal fait, mais tu sais, au point où ce qui copie exactement les textes de notre site web pour les mettre sur son site web à lui, tu fais comme aïe aïe, man, c'est spécial. Moi, c'est la première fois que j'avais vu ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire là. Peut-être qu'au moment de la diffusion de cet épisode, toute cette histoire sera réglée, mais c'est comme une situation à gérer là. C'est comme ben ouais, un ancien employé qui décide que ton idée était bonne puis que il était fâché de pas en faire partie, il décide de le refaire lui-même de son côté. C'est comme c'est spécial.
Ça me fascine. Là, on est du côté de l'entrepreneur, puis notre vision souvent c'est oui, tu sais, les gens amènent beaucoup de collaboration dans les équipes puis ils donnent du leur, mais en réalité de mordre la main qui nous a nourris pendant un certain temps, ça honnêtement, moi ça pile sur mes valeurs assez agressivement, je dirais, et de voir ce genre de cas-là, malheureusement, c'est déplorable. On souhaite honnêtement que ça se règle dans le mieux des mondes et que ça ne devienne pas un compétiteur sérieux, mais en tout cas,
souvent, il n'y a pas grand-chance de ce côté-là. Non, il n'y a pas grand-chance que ça devienne un compétiteur sérieux. C'est juste anecdotique pour nous en ce moment. Tu sais, on se demande un petit peu comment réagir à ça. Tu sais qu'il peut pas devenir un compétiteur sérieux parce qu'il y a pas les ressources, il n'y a pas les idées, puis il n'y a surtout pas les dernières versions que nous on a fait qui sont comme à des années-lumière de ce que lui pourrait avoir. Mais non, c'est juste le type de défi avec lequel tu dois composer quand tu commences une start-up, un produit et tout ça. Puis tu sais, je vais la série télévisée Silicon Valley, hein,
oui,
que tu as certainement vu, et d'après moi, absolument, tous ceux qui écoutent ont dû voir cette série-là. Moi, je me suis servi de ça au début de l'histoire de Rubber Duck, pratiquement comme une bible, comme un manuel de quoi faire et quoi ne pas faire, parce que il se passe tellement toutes les énormités les plus ridicules dans cette série-là, toutes les mésaventures et les arnaques que l'entrepreneur peut avoir dans le début de sa startup, il les a toutes vécues. Fait que moi, j'ai littéralement pris ça, j'ai pris des notes, j'ai fait « OK, ça, faut pas que ça m'arrive, faut que je fasse attention à ça. » Fait que j'ai vraiment tout noté là-dedans, puis je garde en tête toutes les situations. Fait comme « Non, celle-là, faut pas que ça m'arrive. » Puis je m'assure que, hey, pour vrai, j'étais pas le fun dans les conventions d'actionnaires. J'étais vraiment, je devais être complètement agressant, mais moi, j'avais vu ça dans ces émissions-là. Puis j'étais comme « Non, pas question que ça m'arrive. » Là. Tu sais,
Mais c'est tellement bon que t'apportes ça, parce que la même chose quand ça a sorti dans l'équipe entre autres de Berrycast, on l'écoutait tous ensemble, puis ça nous faisait un petit peu une université de ce qui pouvait s'en venir en avant.
Mais oui, c'est, mais oui.
Tu parles à d'autres gens qui ont développé du produit, puis mon Dieu, c'est tellement des cas réels qu'on entend à gauche et à droite, là, ils ont tous condensé dans une seule et même histoire.
Exactement. Tout le monde en a vécu un de ceux-là, tu sais, puis nous autres, on était dus, tu sais, cette histoire-là de se faire copier, ça me rappelle un peu cette série-là, puis c'est comme... Ben, coudonc, on s'est pas assez bien protégé. Il y avait rien à protéger. En fait, ils ont copié l'idée. Ils ont même pas copié le code, là. Il y a pas, c'était l'employé en question, c'est même pas quelqu'un qui avait accès au code, donc c'est même pas à part copier l'idée. Ah, d'accord,
d'accord. On vous souhaite que ça se règle avec le moins de ressources ou d'efforts possible de votre côté pour pas trop gruger d'énergie pour rien, parce que
ça va être fucké. Ça va bien se passer. Et salut, voilà, Vincent.
Je suis confiant.
Je dis bonjour, Vincent.
Donc, Jonathan, merci beaucoup de ton partage, ton généreux partage avec nous aujourd'hui. Je souhaite laisser un petit peu la place pour faire un placement de produit aujourd'hui. Entre autres, tu as démarré un podcast, je pense, avec ta conjointe. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi puis à qui ça s'adresse?
Mais dans le contexte de ce podcast-là, c'est elle qui a démarré le podcast et moi, je suis son employé. Mais le podcast en question, ça s'appelle « La femme du boss ». Donc, « La femme du boss », c'est ma conjointe Yannick qui anime ça. Elle va recevoir régulièrement, je vais dire à peu près une fois par mois, la conjointe ou le conjoint d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur au Québec pour voir un petit peu l'autre côté de la médaille. C'est quoi la vie en arrière, la portion famille, la portion logistique, la portion c'est quoi que la personne qui accompagne cet entrepreneur là dans le day to day, c'est quoi sa réalité, c'est quoi les sacrifices qu'elle a besoin de faire, les enjeux auxquels elle fait face. Puis l'angle, c'est vraiment de mettre de l'avant l'incroyable travail qui est fait par des gens qu'on n'entend jamais parler, qui, tu sais, vous imaginez bien que dans mon cas, si Yannick est pas là, il y a rien de rubber duck qui se passe. Tu sais, elle est pour 50% dans tout ça, ne serait-ce que pour me permettre de moi y passer énormément beaucoup plus de temps pendant qu'elle s'occupe de vraiment tout le reste et tous les autres sacrifices et tous les autres enjeux que elle prend sur ses épaules pour que moi j'aie pas besoin de les prendre. Et ben, ses compétences incroyables en relations publiques, elle me permet de pas me mettre les pieds dans la bouche à peu près à toutes les semaines.
J'adore tellement le sujet du podcast parce que derrière tout grand entrepreneur, qui est un E ou pas d'entrepreneur, là, il y a toujours une personne, un conjoint, une conjointe en arrière qui est dans l'ombre, mais qui fait que les deux peuvent s'élever autant au niveau famille que niveau professionnel. Fait que c'est rare qu'une personne à succès en affaires, il n'y a pas quelqu'un en arrière pour s'occuper du côté un petit peu plus familial, qui est aussi important que le côté professionnel, sinon même plus au bout de la ligne, là. Mais j'adore le sujet. J'ai mis ça dans ma liste de podcasts. Je vous invite aussi à aller écouter ça. Donc, c'est disponible Spotify, entre autres, Apple Podcasts, j'imagine aussi. On tape La Femme du Boss.
Toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. La Femme du Boss, femmedubosse.com, je crois.
Fantastique. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Et petit placement de produit pour Rubber Duck. On t'écoute, Jonathan.
Moi, en ce moment, je travaille à rassembler, trouver le plus possible les technologies québécoises parce que, tu sais, on travaille beaucoup à développer notre marque à l'international, à pousser tout ça, mais avant tout, il y a quand même la portion du Québec qui est intéressante. Donc, on cherche les autres technologies québécoises avec laquelle ce serait intéressant de faire des partenariats et de s'intégrer aussi. Donc, on pense facilement, quand tu es dans un site web, tu vas envoyer tes leads à ton CRM. Bon, mais s'il y a des CRM québécois, appelez-nous. Des ERP québécois, des plateformes de mailing, d'envoi de courriel québécois. Et puis, il y en a plein d'autres, là, des plateformes de gestion de candidatures, d'emploi et tout ça, là, les ATS de ce monde. Il y a plein de types de plateformes qui ont besoin de bien s'intégrer dans un site web. J'aimerais connaître toutes les plateformes québécoises de ce type. N'hésitez pas à nous appeler. On veut vous connaître, puis on veut travailler ensemble, puis essayer de trouver un point commun où ce que tout le monde va être gagnant là-dedans, puis faire des beaux partenariats.
Et si vous connaissez justement ce genre d'application-là québécoise, puis rejoindre Jonathan, entre autres, via LinkedIn, Jonathan Tifault, T-H-I-F-F-A-U-L-T. On cherchait entre autres un contact pour l'entreprise Centrix One. Je parie 100$ qu'on a un de nos auditeurs ici qui a peut-être un bon contact chez Centrix One. Donc, si ça vous sonne à l'oreille positif, s'il vous plaît, entrez en contact avec moi ou avec Jonathan Tifault directement pour peut-être ouvrir une petite porte et vous pourriez faire la différence au bout de la ligne. Jonathan, merci encore une fois pour ta générosité. Je te souhaite un énorme succès ou une continuité de succès. Je suis convaincu qu'on va pouvoir se reparler dans 6, 12, 18 mois puis voir la progression de où ce que vous en allez. Bravo encore d'oser, de faire le move, de prendre ce risque-là. Puis je te souhaite un énorme succès devant nous et au plaisir de peut-être se reparler dans un prochain podcast.
Ça fait très plaisir. Merci à toi.
Super. Merci à tous d'être des nôtres. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
Wow!
Voici mes 5 points résumés que je retiens de ma discussion avec Jonathan cette semaine. Premièrement, au niveau de l'argent disponible, c'est ce qui est le plus important pour être capable de survivre à la grande traversée entre une entreprise de service vers un modèle de produit. Donc, assurez-vous d'avoir assez de liquidités, assez d'instruments financiers autour de vous pour vous réussir à rendre jusqu'à un fameux product market fit. Essayez le plus possible de repousser les levées de fonds, si possible, même après l'atteinte du product market fit ou l'arrivée du cash flow positif. Ça va vous mettre dans une bien meilleure position pour négocier également avec vos investisseurs potentiels. Troisièmement, soyez le plus niché possible pour mettre toutes les chances de votre côté à arriver rapidement à un product market fit et donc ensuite à un cash flow positif. Négligez pas non plus les enjeux légaux qui peuvent arriver avec une transition de service à produit, autant ce qu'on doit livrer pour nos clients de service que les entités fiscales et légales à mettre en place pour être bien structuré, mais ne le faites pas trop rapidement non plus. Assurez-vous peut-être de parler avec d'autres gens qui ont fait ce parcours-là pour éviter quelques milliers de dollars peut-être dépensés au mauvais endroit. Et cinquièmement, soyez le plus lean possible, même si malheureusement cela implique parfois des décisions humaines difficiles à prendre. Vous restez le capitaine du bateau et votre première mission, c'est d'amener le bateau à bon port. Ça implique parfois des décisions que notre cœur nous dit une chose qui est l'inverse de ce que notre tête nous dit. Il faut malheureusement parfois prendre des décisions avec notre tête. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. N'oubliez pas, nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Donc, notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un 5 étoiles dans votre plateforme de balado préférée. Donc, si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le sur les médias sociaux. Envoyez-le à un ami, un collègue, un entrepreneur. Abonnez-vous à notre podcast dans votre plateforme de balado préférée ou donnez-nous, s'il vous plaît, un 5 étoiles. Cela nous aide grandement. Donc, je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.